Merci Philippe. C'est bien si on se trompe pas. Hein. Si je dis Philippe, Philippe,
ça, voilà, ça, va aller,
ça ira très bien.
On lève les deux la tête, généralement.
Est-ce que vous m'entendez bien aussi au fond? Est-ce que vous y voyez bien? Ça va? Très bien, très bien. Alors, ma joie d'être avec vous. Donc, je remercie les organisateurs de nous permettre de vivre ce temps fort ensemble, surtout aujourd'hui, 30 septembre 2023, parce que c'est une date historique. Ce soir, il va se passer quelque chose de vraiment historique. Vous savez ce qui se passe ce soir? À Rome. C'est le lancement du synode sur la synodalité de l'Église catholique. On a des frères et sœurs catholiques avec nous? Peut-être pas aujourd'hui. Si? Oui? Oui? Allez-y, allez-y. Très bien. Oui. Alors ce soir, lancement du synode sur la synodalité. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, le pape a voulu que le lancement de ce synode se fasse de façon œcuménique. Il y aura une veillée de prière à la place Saint-Pierre. Il a invité tous les autres responsables des autres dénominations confessions chrétiennes. Il y aura Welby pour les anglicans, les baptistes, les méthodistes, les luthériens, les réformés. Et les 12, ils sont 12, les 12 entreront à Saint-Pierre ensemble, prieront ensemble et offriront la bénédiction finale ensemble de cette vigie de prière qui est là pour invoquer l'Esprit et demander son aide aussi sur cette étape très importante pour votre Église. Et là, du coup, c'est une première. L'histoire va s'écrire sous nos yeux. Et donc, voilà, je me réjouis que nous aussi... pour tout vous dire, j'étais invitée à Saint-Pierre, à Rome. Ouais. Mais je préfère être avec vous,
Merci.
Et oui, c'est vrai, parce que l'œcuménisme, la rencontre, c'est la rencontre, justement, ici aussi, entre nous. C'est là que ça se joue aussi, ça se joue pas que là-haut. Mais donc, je pense que c'est intéressant qu'on soit réunis ensemble aujourd'hui, dans une journée aussi spéciale, et voilà, je suis pleine d'actions de grâce et d'attente par rapport à cet événement, vraiment, Donc, je suis Valérie Duval-Poujol, et c'est vrai que moi, je suis théologienne baptiste, donc les baptistes, c'est un des mouvements du protestantisme évangélique. J'enseigne dans plusieurs facultés de théologie, parce que je suis très spécialiste sur les manuscrits de la Bible, sur le grec, sur la Septante. Donc j'ai le privilège d'enseigner à la Catho de Lyon, à la Catho de Paris, à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, chez les Adventistes. Voilà, je fais le pont entre plusieurs milieux. Et puis je suis traductrice de la Bible. J'ai le privilège de participer à la TOB, la traduction œcuménique de la Bible 2010. Ça, je pense que vous la connaissez, la TOB. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Et puis, plus récemment, la Nouvelle Français Courant, j'étais la chef de projet. Alors, j'ai eu le privilège de superviser 60 collaborateurs pour réviser cette Bible-là. Et j'aurai l'occasion, du coup, de vous en parler, de ce beau projet œcuménique. J'habite à Bordeaux. Donc, je viens de Bordeaux, où mon mari est pasteur, du coup, là-bas. Voilà. Mais du coup, voilà, bienvenue. Asseyez-vous, installez-vous. Soyez vraiment bienvenus. Et enfin, dernière casquette, je suis aussi vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et donc, on vit aussi un œcuménisme intra-protestant. Parce qu'il y a beaucoup de différences aussi au sein des protestants. Hein, d'accord ? Donc, c'est une de nos richesses, mais c'est aussi une de nos caractéristiques dont j'aurai l'occasion de vous en parler aussi. Alors, aujourd'hui, la Bible, frein ou moteur en œcuménisme, point d'interrogation ? Je ne remporterai pas l'Oscar, le César de l'originalité pour mon plan. En première partie, on va voir en quoi la Bible est un facteur de frein, de division, et en deuxième partie, en quoi elle est un moteur d'unité en œcuménisme. Mais d'abord, et pour permettre aux uns et aux autres de bien s'installer, je vous propose d'échanger avec votre voisin, votre voisine, ou de vous retourner, d'accord ? À votre avis, d'après votre vécu, votre expérience, si vous êtes là, c'est que l'œcuménisme vous tient à cœur, la rencontre avec les autres chrétiens, en quoi la Bible est un frein à l'œcuménisme ou en quoi elle est un moteur? Prenez quelques minutes avec votre voisin, votre voisine, d'accord, pour échanger, d'après vous, d'après votre expérience, votre vécu, en quoi la Bible a été un frein ou un moteur, un encouragement à l'œcuménisme. Vous pouvez vous tourner derrière, vous pouvez... Voilà, je vous invite à reprendre place. Alors peut-être vous avez déjà eu plein d'idées, plein d'échanges, peut-être vous n'avez aucune idée et du coup vous êtes content d'être venu, vous dites du coup je vais apprendre quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de partager dans ce que vous avez dit, parmi les choses que vous avez partagées? Qu'est-ce qui est un frein, par exemple? Oui?
La tradition.
Ah oui. Le rapport à la tradition et la tradition, oui, on va en parler. Et qu'est-ce qui serait moteur? En quoi la Bible est moteur? En quoi elle encourage?
c'est quand même notre livre commun, nos écritures communes, entre chrétiens, avec quelques exceptions ici ou là. Mais...
Ouais. On l'a vu ce matin, hein, avec la lecture du psaume, du coup, en commun. Ah, très bien. Alors, on va commencer, du coup, par la Bible, un frein. En quoi la Bible est un frein, un facteur de division. Et j'évoquerai la question du canon, de notre sommaire, de notre liste de livres, celle des traductions bibliques, comment les traducteurs, des fois, ont un peu tiré la couverture à eux, hein. Et puis les projets interconfessionnels de traduction, et aussi l'herméneutique et la tradition. Je vais rester dans le cadre de l'unité des divisions entre chrétiens, hein. Je ne parlerai pas d'interreligieux aujourd'hui, d'accord ? On va rester au sein du christianisme, même s'il y aurait des choses intéressantes. Alors, on va commencer par la question du canon. Et je vais demander à nos deux Philippe de vous distribuer quelque chose, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le canon, vous le savez, les chrétiens n'ont pas le même canon. Alors, ce n'est pas un terme de guerre, canon, même si on a beaucoup débattu sur la question. Le canon, ça veut dire la liste des livres, le sommaire de votre Bible, si vous voulez, d'accord ? La liste des livres pour chaque confession. Alors, pendant que ça se distribue, pour le Nouveau Testament, on a tous... catholiques, protestants, orthodoxes, on a tous le même nombre de livres, 27 livres pour le Nouveau Testament, d'accord ? Cette liste, elle a été confirmée définitivement au 4e de notre ère, donc là, vraiment, on a tous les mêmes livres. Mais c'est pour l'Ancien Testament que ça va devenir plus intéressant, et c'est le document que vous avez là sous les yeux. Regardez, trois colonnes, à gauche, la Bible hébraïque, le Tanakh. Évidemment, ils ne disent pas Ancien Testament, hein, du côté juif, d'accord ? Donc, regardez ce sommaire-là. Et puis, ensuite, la colonne du milieu, la colonne protestante, dans les Bibles protestantes. Et enfin, à droite, le canon catholique. Alors, on va prendre un moment, vous allez regarder, à nouveau avec votre voisin, votre voisine, maintenant vous avez fait connaissance. Vous n'avez plus aucun secret l'un pour l'autre. Essayez de regarder où sont les différences avec votre voisin, votre voisine, et où sont les points communs. Hein, où sont les... Il y a des livres qui ne sont pas du tout au même endroit. Et essayez de voir un petit peu les différences, et l'ordre, et le nombre aussi. Essayez de regarder ça avec votre voisin, votre voisine. Oui. 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 Oui, j'ai fait la version simple, mais je peux rentrer dans les détails après. Si, si, ouais, ça change aussi. Mais je commence par des fondamentaux, et puis après, on ira dans les... Voilà, on est d'accord. Voilà, regardez avec votre voisin, votre voisine, du coup. Quelles sont les différences ? Et dans l'ordre, et dans le nombre. On rentre en matière, hein, d'accord ? On commence, vous voyez, par ce qui est visible, le haut de l'iceberg, hein, d'accord ? C'est la différence qu'on a dans nos canons. Alors, pour faire simple... On a 39 livres qui sont reconnus par tous, d'accord ? On a tous les mêmes, les 39 mêmes livres, d'accord ? Ce sont ceux aussi qui correspondent à la Bible hébraïque, même si vous avez remarqué, dans la Bible hébraïque, en fait, ça en fait 24, parce qu'il y en a, c'est les mêmes, mais il n'y en a que 24. Comment c'est possible ? Il y en a qu'on a rassemblés, vous avez vu ? 1 et 2 Samuel, c'est un seul livre, 1 et 2 Rois, c'est un seul livre, 1 et 2 Chroniques, c'est un seul livre, et les 12, nous on en a 12, ils n'en ont qu'un, ça ne fait qu'un seul. Donc on arrive à 24, mais en fait on a les mêmes 39, d'accord ? Donc tout le monde a les mêmes 39. Et ensuite, les catholiques et les orthodoxes, on n'a pas d'orthodoxes avec nous, mais voilà, on va parler aussi hein, d'orthodoxie, les catholiques et les orthodoxes ont d'autres livres, deutérocanoniques, deutéro, ça veut dire deuxième, accepté dans un deuxième temps, d'accord ? Deutérocanoniques. Mais contrairement à ce que pensent les protestants, là, il n'y a pas de théorie du complot, ils ne sont pas sortis du chapeau. On va voir d'où ils viennent, hein, d'accord ? Et qu'on tombe pas malade en les lisant. Ouais. Ou en disant leur nom, hein, voilà, ne vous inquiétez pas, hein, d'accord ? Ou en les lisant ici. Donc on va regarder. Alors, ces livres-là, ici, les livres deutérocanoniques, les protestants, nous, on les appelle apocryphes, d'accord ? Mais ces livres deutérocanoniques, admis dans un deuxième temps, Tobit, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch, 1 et 2, Maccabée. Alors, Maccabée, je sais que dans la langue française, ça veut dire un cadavre, mais en fait, c'est un nom de famille. Hein. C'est une famille, Judas, Maccabée, Siméon, Maccabée. Mais ils ont eu tellement de martyrs que finalement, ça a fini par vouloir dire un Maccabée, c'est un mort. D'accord ? Mais c'est un nom de famille au départ. Hein. Et puis, les ajouts grecs d'Esther et de Daniel ici. Hein. Et puis, à ces livres, eh bien, les orthodoxes vont en avoir encore d'autres. 3 et 4 Maccabées, c'est pas la suite, hein, c'est que c'était placé à la suite dans les manuscrits. 3 et 4 Esdras, un 151e psaume et la prière de Manassé. Et donc les orthodoxes les appellent cela, il faut un mot grec pour les orthodoxes, ils les appellent les anaginoskomena, à vos souhaits, hein, les anaginoskomena, autorisés à la lecture. D'accord ? Ils les appellent autorisés à la lecture. D'accord ? Et donc ces livres-là, ils nous viennent d'où ? Je vous dis, il n'y a pas de théorie du complot ou du chapeau, c'est la diaspora juive, d'accord ? 3e siècle avant notre ère, ceux qui sont loin de Jérusalem, diaspora juive, ils ne comprennent plus l'hébreu, et donc ils traduisent en grec. C'est l'anglais de l'époque, depuis Alexandre le Grand, ils traduisent en grec. Ils traduisent la Bible hébraïque en grec, et puis ils rédigent aussi des ouvrages pour s'édifier. Comment on vit la foi de nos pères dans un contexte qui est tellement différent, qui nous heurte, où on est une minorité. Là, ça nous ressemble beaucoup. Comment on vit, du coup, hein, comment on est fidèle à Dieu, tout en étant dans un contexte helléniste, là, tout à fait opposé à notre foi. Alors, ils rédigent des livres, ce sont tous ces livres-là. On est au 3e, 2e, 1er, avant Jésus-Christ, pour édifier leur foi. Donc, vous voyez, ça nous vient de cette communauté juive de la diaspora, ici, hein. Et donc, si vous m'avez bien suivi, les protestants considèrent apocryphes les livres que les catholiques appellent deutérocanoniques, que les orthodoxes appellent anaginoskomena. Ça va, je vous ai perdu, vous êtes toujours là? Très bien. Et si vous voulez creuser la question, eh bien c'est dans la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, 2010, qu'on a tous ces livres-là. Non seulement les catholiques, mais aussi les orthodoxes. D'accord? On va y revenir ici. Donc là, voilà. Hein. Donc là, vous avez là-dedans, vous avez tout avec des introductions, une très bonne introduction aussi au canon. Et donc, ces livres-là sont facteurs de division. Deux exemples. Le très beau projet The Bible. Vous avez entendu parler de The Bible ? Voilà. Très beau projet pour les 15-25 ans, pour nos jeunesses, pour nos groupes de jeunes. C'est le texte de la Nouvelle Français Courant avec des notes dans la marge et des encadrés pour les aider, pour les accompagner dans leur lecture. Magnifique projet œcuménique. Des pasteurs protestants, plutôt évangéliques, ont ramené ces Bibles-là aux libraires lorsqu'ils ont découvert qu'au milieu, il y avait les deutérocanoniques, en disant « c'est pas possible, je ne peux pas donner ça à mes jeunes ». Et en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'est parce qu'en fait, ils n'auraient pas su expliquer à leurs jeunes d'où venaient ces livres et pourquoi ils n'étaient pas présents dans les autres Bibles protestantes. Et ne pouvant pas expliquer, parce qu'on ne leur avait pas raconté l'histoire, bah, du coup, ils préféraient interdire, hein, en étant inquiets et tout ça. Donc ça, c'était un exemple très concret qui a posé question. Et puis, du coup, voilà, on a d'autres exemples. Quand la TOB 2010, du coup, hein, quand celle-ci, quand elle est sortie en 2010, elle intègre donc les livres orthodoxes, 3-4 Maccabées, 3-4 Esdras, que ni les protestants ni les cathos n'ont. Et là, les catholiques ont dit « Ah non, pas une Bible avec des livres que nous n'avons pas !» On s'est retrouvé dans la situation de la toute première TOB, il y a plus de 40 ans, quand elle est sortie, et que les protestants avaient dit « Oh non, bon, une Bible œcuménique, c'est bien, mais là, il y a des livres qui ne sont pas les nôtres. » Et l'équipe avait insisté en disant « Non, non, ça fait partie du paquet. C'est qu'il y a une traduction œcuménique avec aussi des livres qui ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas obligé de les traiter pareil, mais ça fait partie de la découverte de l'autre, rencontrer son canon. » Ah bon, d'accord. Alors les protestants avaient fini par accepter. Et 40 ans plus tard, c'est les catholiques qui se sont retrouvés dans la même position, de dire « Ah, oh, mais ces livres-là, là, les livres orthodoxes, c'est pas les nôtres. » Et il a fallu les convaincre, et c'est encore un work in progress, il a fallu les convaincre que eh ben, c'était intéressant de rencontrer le canon de l'autre. Vous voyez ? Donc, il y a eu un lieu de discussion, là, ici, un déplacement, hein, si vous voulez. Ce qu'on oublie un peu vite, c'est que jusqu'au 19e siècle, dans les Bibles protestantes, ces livres sont présents. Si vous avez des Bibles de famille, si vous avez dans vos temples, Philippe, je ne sais pas si vous avez une Bible historique dans votre temple, si elle est d'avant le 19e, ça contient les deutérocanoniques et même les anaginoskomena. Et ça, c'est un choc en général pour les protestants de réaliser ça. Vous voyez, jusqu'au 19e. Moi, j'ai des Bibles de famille depuis la Révolution, je suis allée vérifier. Ben oui, jusqu'au 19e, ces livres sont présents. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment intéressant ici. Donc bien sûr, pas tout à fait, ils sont entre l'ancien et le nouveau, ou à la toute fin du nouveau, écrits en plus petit caractère. Hein, c'est depuis Luther, si vous voulez, qu'on montre qu'il y a une différence, d'accord ? Mais il les a gardés. Et c'est Luther, donc, en effet, il n'est pas le premier, mais c'est lui qui a donné le ton pour tous les autres. Il les réunit ensemble et il introduit la section avec ses phrases apocryphes, je vous la fais en français, hein, pas auf Deutsch, hein, d'accord ? Apocryphes, c'est-à-dire livres non retenus comme saintes écritures, ça, on l'a tous bien intégré. Et la suite, qui sont pourtant utiles et bons à lire. Ah bon, ça on l'a évacué, cette deuxième partie. On n'a pas retenu cette partie-là de Luther. On n'a gardé que la première, non retenue comme Saintes Écritures. Bah oui, c'est pas tout à fait le même niveau. Et il disait qu'ils sont pourtant utiles et bons à lire. C'est-à-dire, tout en n'étant pas d'accord avec certains des éléments, des enseignements qui étaient dedans, il disait que c'était une fenêtre ouverte, intéressante, sur les communautés qui précèdent le Nouveau Testament, pour nous aider à mieux comprendre le Nouveau Testament. Sinon, vous avez un trou majeur entre Malachie et Matthieu, 400 ans de silence. Voilà. Bah, c'est dans les Maccabées, par exemple, que vous avez cette fenêtre ouverte. Hein. Donc, c'est intéressant de voir qu'on n'a retenu qu'une partie là, de ce que Luther disait ici. Donc, ils sont présents. Je vous raconte ce qui s'est passé en Suisse, puisqu'on est là en Suisse. C'était dans la cathédrale de Zurich. Rassemblement de l'Alliance Baptiste Mondiale. Donc les leaders baptistes du monde entier sont là dans cette cathédrale et ils admirent la Bible, évidemment, de Zwingli. Ils se sentent en plus un peu... Ah, c'est un peu notre prédécesseur. Et ils se font tous prendre en photo devant la Bible de Zwingli. Alors moi, traductrice de la Bible, intéressée, je regarde. Regardez à quoi ils l'avaient ouvert. À 4 Esdras. Un livre qu'aucun d'eux n'avait dans leur Bible. Un apocryphe, même pas catholique, vous voyez, orthodoxe. Et donc ces photos ont fait le tour du monde entier, sur tous les réseaux sociaux, la Bible de Zwingli, etc. Et en fait, c'était ouvert à un apocryphe. Moi, j'ai beaucoup ri, j'ai rien dit. Je me suis dit, on va les laisser prendre les photos, hein, il faut qu'il y... Voilà, mais vous voyez, c'est l'occasion de faire de la pédagogie et de dire, bah écoutez, Zwingli, dans sa Bible, hein, le Zwingli, ancêtre des anabaptistes et donc des baptistes, eh bien, il l'avait dans ses Bibles, dans sa Bible, il les avait gardés. Lui aussi, vous voyez, il les avait gardés. Donc... on peut lire ces livres-là, fenêtre ouverte sur les communautés des premiers siècles, tout en ne leur accordant pas le même statut, hein, d'accord ? Et donc, regardez maintenant le canon très précisément, la feuille que vous avez eue, d'accord ? Il y a en fait deux ordres. Si on regarde bien, il y a deux ordres, d'accord ? Regardez, donc du coup, vous avez deux grands classements. À gauche, l'ordre de la Bible hébraïque, et c'est celui de la Tob aussi. La Tob est la seule Bible française à avoir suivi cet ordre juif, d'accord ? C'est pour ça que la première fois qu'on arrive dans une Tob... on est un peu perdu. D'accord ? Donc, l'ordre de la Bible hébraïque, c'est la loi, les 5 premiers, vous avez vu, les prophètes, et dans les prophètes, on inclut l'histoire, et les écrits, en particulier ceux qu'on lit pendant les fêtes. Ce qui veut dire qu'on termine, on termine par quel livre ? Esdras, Néhémie, Chronique. On termine par Chronique. Mais quelle idée ? Pourquoi Chronique ? À cause des derniers versets de Chronique, je suis sûr que vous connaissez par cœur les derniers versets de Chronique, allons à Jérusalem rebâtir le temple. La reprise de l'édit de Cyrus. Et ça, du coup, symboliquement, on termine le canon, on choisit de terminer, c'est une construction, on choisit de terminer par cette invitation à remonter à Jérusalem. Et nous, du côté chrétien, catholique ou protestant, on a fait un autre ordre, on a plutôt fait un ordre linéaire historique, comme s'il y avait une grande fresque historique depuis la Genèse jusqu'à Esther. Et puis ensuite, on a les écrits, vous avez lu, psaumes, Job et tout ça, et on termine par les prophètes pour annoncer le Messie. Les prophètes qui annoncent le Messie et le dernier, Malachie, qui annonce le soleil de guérison, hein, qui est le soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison. Vous voyez ? Donc du coup, c'est une construction. À l'époque où on a quitté le rouleau pour passer au livre, on a choisi dans quel ordre on allait mettre ces livres. Donc c'est une construction théologique qui n'est donc pas la même. Est-ce qu'on termine avec Chronique ou avec les prophètes ici ? Ça va pour le canon, vous voyez ? Donc ça a été un facteur de division, mais voilà, il y a un antidote assez facile. Hein, voilà, c'est d'être ouvert en étant à la découverte aussi de l'autre, en disant oui, je ne le mets pas sur le même plan, mais je peux être à la découverte de ces livres-là, si vous voulez. Deuxième facteur, du coup, de division, ça a été les traductions. Les traductions. Parfois, ça a été nos traductions elles-mêmes, nos traductions confessionnelles qui ont dressé des murs, là où les textes, eux, ne prêtaient pas forcément à discorde. Vous connaissez l'adage, traduire, c'est trahir. Ça, c'est un peu exagéré, hein, en tant que traductrice de la Bible, voilà, je ne souscris pas. Mais en tout cas, traduire, c'est toujours interpréter. Traduire, c'est toujours interpréter. On doit faire des choix quand on traduit. Et souvent, eh bien, les lunettes culturelles, mais aussi confessionnelles, eh bien, ont fait que le traducteur a interprété. Alors, on reprendra des exemples tout à l'heure, cet après-midi, hein, d'accord ? On a toute la journée ensemble. Hein. Mais je vous donne quand même déjà deux aperçus. Dans la seconde, C'est pas un hasard si je prends celle-là, parce que c'est la Bible de référence du côté protestant, hein, d'accord, la plus connue, la plus... Eh bien, dans la Bible seconde, on a fait un choix majeur de traduction. Partout où il y avait prêtre, Cohen, dans l'Ancien Testament, on a remplacé par sacrificateur. On ne voulait pas qu'il y ait des prêtres à toutes les pages de la Bible. 1910, on ne peut pas dire que c'est la période de l'œcuménisme, vous voyez, pas encore. Hein. Et donc, on ne voulait pas qu'il y ait des prêtres, c'était trop catholique. Et on a remplacé par un mot imprononçable, improbable, sacrificateur. Bon, c'est celui qui fait des sacrifices, mais vous voyez, c'est un mot difficile. Il n'y a que là qu'on l'emploie. Je veux dire, il n'y a nulle part ailleurs où on l'emploie, sacrificateur. Par réaction. Par réaction. En disant, ah non, on ne va pas faire une Bible qui aurait l'air catholique, les prêtres. Non, non, non. Donc ça, vous voyez, c'est orienté. Hein. Et puis alors, je vous partage l'exemple qui m'a fait le plus réfléchir quand on a fait le chantier de révision de la Nouvelle Français Courant. Comment traduire pistos tou Christus, c'est du grec dans le Nouveau Testament. Ça veut dire à la fois la foi en Jésus, la confiance que je place en lui, la foi que j'ai en lui, ou la foi de Jésus, la foi que lui a eue. Hein. Et le grec arrive à dire les deux. Il est très riche. Et nous, en français, on doit faire un choix. Et là, j'étais frappée. Moi, j'ai grandi dans un milieu évangélique. Toute ma vie, on m'avait seulement parlé de la foi en Jésus. Et avec des appels, bien sûr, à la conversion. Et à, voilà, c'est la confiance que moi, je place en Jésus, la foi en Jésus. Vous êtes sauvés par la foi en Jésus. Votre démarche, ce que vous allez, vous voyez, on a tous appris ces versets-là par cœur. Et les collègues catholiques réviseurs, eux, arrivaient avec, mais non, mais c'est la foi de Jésus, c'est son œuvre à lui, c'est ce que lui a fait, c'est la confiance que lui a eue en le choc. Jamais j'avais entendu cette traduction-là. Et alors on creuse et on vérifie, ah ben oui, le grec permet les deux, le grec veut dire les deux, le grec est très riche. Et là, on se rend compte qu'on a eu des lunettes. Qu'on a eu, en fait, vous voyez, des biais un petit peu de traduction. Hein. Regardez, ça donne, par exemple, ça dans les versets de Galates 2,16. « Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ. » Ça, c'était l'ancienne français courant. Et bien, dans la nouvelle, nous savons que l'être humain est rendu juste uniquement grâce à la foi de Jésus-Christ. On a mis les deux. On a mis les deux. Eh ouais, on ne dit pas du tout la même chose. La foi en ou la foi de, vous voyez. Et donc le grec, je redis, permet les deux. Donc on a alterné, surtout quand ça se produit plusieurs fois dans le même paragraphe, pour montrer la richesse, et puis surtout une note qui explique, hein, et qui dit la richesse. Donc le canon, les traductions, et on reprendra beaucoup d'exemples du coup cet après-midi, et puis troisième du coup facteur, c'est l'herméneutique. C'est le gros mot chic, ça, pour dire l'interprétation de la Bible. D'accord. Là, ça mériterait une journée en soi, nos différences herméneutiques. Comment lisons-nous la Bible? Quelle méthode pour l'interpréter? Alors, j'ai choisi deux points particuliers qui expliquent justement particulièrement nos différences. Et nos différences entre protestants, catholiques et orthodoxes, mais aussi entre personnes d'une même dénomination. Parce que, disons-le tout net, il y a parfois plus de différences au sein d'une même confession qu'entre... voilà, en ce moment, il y a par exemple beaucoup de rapprochements catholiques et évangéliques. On l'a vu au JMJ avec une journée évangélique. Voilà. Enfin bon, donc il y a beaucoup de rapprochements. Mais alors, au sein d'une même confession, hein, entre protestants, on a encore du chemin aussi à parcourir. On l'a vu avec l'actualité récente de la décision de bénir les mariages de personnes de même sexe, hein, qui a vraiment créé une ligne de fracture là, sur le plan éthique. Donc ici, du coup, hein, comment est-ce qu'on va faire ? Ici, en France, en Suisse, ça fait partie des questions numéro 1 des divisions. À l'échelle mondiale, moi j'ai la chance de participer à des débats au plan mondial, alors à ce moment-là, on discute aussi sur le créationnisme, c'est moins un sujet ici, mais il y a des pays où c'est vraiment là la ligne de fracture, le sionisme, l'évangile de la prospérité, voilà. Ici on est moins... voilà. Mais en tout cas, ça fait partie des exemples de débats herméneutiques contemporains. Alors une des clés pour expliquer du coup, c'est ce que vous disiez monsieur, c'est la tradition. Hein, une des clés pour bien comprendre nos différences, c'est l'articulation tradition-écriture. C'est une question qui a été beaucoup traitée dans les débats théologiques, et j'en citerai un dont j'étais membre, donc entre l'Église catholique et l'Alliance baptiste mondiale. On a apporté des clarifications qui me semblent très pertinentes pour éviter les clichés. En œcuménisme, il faut toujours éviter les clichés, d'accord ? Donc voilà les conclusions auxquelles je m'associe. Les conclusions du dialogue, c'était d'encourager les catholiques. Les catholiques sont invités à reconnaître qu'une approche critique de la tradition, à la lumière des Écritures, est nécessaire. Alors là, les protestants disent « Ah oui, 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 il faut qu'ils fassent ça. » C'est vrai. Mais il y avait aussi que les protestants, et en particulier les évangéliques, sont invités à reconnaître qu'ils sont plus influencés par la tradition qu'ils ne le prétendent. On a un peu l'illusion de penser qu'on est génération spontanée et qu'entre Jésus et nous, 2023, hein, il n'y a rien. En fait, on est beaucoup plus influencé par la tradition, même en milieu évangélique. Il n'y a qu'à voir la composition de notre Bible. Elle est vraiment le fruit de beaucoup de décisions, en fait, qui ont été prises dans la tradition, ici. On a souvent avancé en protestantisme ce slogan « Sola Scriptura », l'écriture seule. C'est un très beau slogan, mais on l'a confondu avec « Nuda Scriptura », l'écriture toute nue, pensant qu'elle était tombée du ciel aujourd'hui en 2023 et en oubliant toute l'histoire qui explique comment la Bible est devenue la Bible. Il y a toute une histoire qui fait qu'elle nous est arrivée. Jésus ne parlait pas français, hein. Je pense que ce n'est pas un scoop. Voilà. Jésus, il parle araméen, il est traduit en grec par les évangélistes, il y a les copistes qui recopient, et ça nous est traduit en français aujourd'hui. Vous voyez un peu la chaîne de transmission entre Jésus et nous, hein. Donc, voilà, il faut enlever un peu ce mythe de nuda scriptura. Sola scriptura, oui, mais nuda scriptura, l'écriture n'est pas toute nue ici, hein. Pour le dire en d'autres termes, on va frimer avec un peu des gros mots, hein, comme ça vous pourrez revenir en disant, voilà. Alors ici, du coup, il ne faut pas avoir, pour reprendre des termes de l'histoire de l'Église, il ne faut pas avoir une approche docète des Écritures. Vous vous souvenez, chez les docètes, le docétisme, on néglige la dimension humaine. En fait, il n'était pas humain. Il avait l'air humain, Jésus, mais il n'était pas humain. Et on ferait du coup comme si elle n'était humaine qu'en apparence. Il ne faut pas avoir une approche ébionite, ça c'était une autre hérésie, où elles étaient du coup considérées que comme humaines. L'inverse, vous voyez, elles sont que humaines. Non, il nous faut avoir une approche chalcédonienne. Chalcédonienne, c'est le moment, hein, chalcédoine, où on a vraiment articulé qu'il était à la fois Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Il est les deux qu'on n'a pas à choisir. Il a fallu 4 siècles, hein, pour articuler, pour comprendre ça, hein, si vous voulez. Les données étaient là, mais hein, il a fallu 4 siècles pour dire qu'il n'y a pas à choisir entre les deux. Il faut les deux. Il est pleinement humain et pleinement Dieu. Ben, c'est pareil pour les Écritures, en fait. Il faut appliquer ce paradigme aux Écritures. Elles sont pleinement humaines. Transmission des manuscrits, on n'a pas d'originaux. Enfin, vous voyez, voilà, c'est pleinement humain. Mais c'est en même temps parole de Dieu. C'est ce qui fait que 2000 ans après, ça a toujours de l'autorité, ce texte-là. Comment vous expliquez qu'un texte millénaire comme ça, il a encore de l'autorité aujourd'hui? Parce que parole de Dieu, vous voyez? Ben, parole de Dieu, pas tombée du ciel comme ça en 2023, parole humaine aussi. Et il faudrait pouvoir articuler les deux ici pour avoir un équilibre. Et sans doute, le rapprochement entre chrétiens autour de la Bible est freiné quand un des interlocuteurs oublie une des deux dimensions du paradoxe. Si on oublie qu'elle est divine, voilà, dans certains milieux plus humanistes peut-être que religieux, hein, de dire non mais c'est un texte comme un autre, ou bien si on oublie du coup qu'elle est quand même aussi humaine et qu'on la traite comme un ouvrage, comme un Coran, hein, excusez-moi, mais voilà, comme un ouvrage qui serait tombé du ciel sans aucune histoire. Pourquoi il faut insister sur l'histoire? Parce que ça veut dire que vous avez besoin d'outils pour l'interpréter. C'est ça qui est en jeu. Si vous comprenez que le texte a une histoire, alors vous comprenez que vous avez besoin d'outils pour comprendre ce texte. Il n'est pas écrit dans ma langue, il n'est pas écrit dans ma culture, il parle d'une culture qui n'est pas la mienne. Vous voyez, je vais avoir besoin d'outils pour le comprendre. C'est ça qui est en jeu. Est-ce que j'ai une lecture immédiate seulement, ou est-ce que j'ai une lecture aussi avec des outils? Ce qui n'empêche pas le Saint-Esprit dans tous les cas, hein. On a tous besoin d'être éclairés. Mais avoir recours au Saint-Esprit n'empêche pas d'avoir recours à des outils. C'est ça qui est en jeu, hein. Le pouvoir avoir des outils ou pas. Mais il n'y a pas que les outils, il y a aussi, vous voyez, il faut trouver l'équilibre ici entre les deux. Et l'autre clé, alors, plus opératoire peut-être pour les protestants, mais mes collègues à la Cato me disent qu'on trouve aussi ça de temps en temps en catholicisme. Au sein du protestantisme, il y a une vraie fracture herméneutique. Certains pensent qu'en obéissant à la lettre des Écritures, ils obéissent à l'esprit. Si j'obéis à la lettre, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai obéi à l'esprit. Et d'autres pensent que pour obéir à l'esprit, il ne faut surtout pas obéir à la lettre. Sinon, vous seriez dans un contresens, en fait, vous voyez ? Donc, voilà comment les deux positions se résument. Pour les uns, tout ce que l'Écriture ne commande pas, n'ordonne pas, elle l'interdit. Dans cette position, on va donc chercher à trouver un verset biblique pour toute situation. Sinon, on a l'impression que ça n'est pas permis. Si je n'ai pas un verset qui me le dit, c'est pas permis. Par exemple, à la réforme à Zurich, je prends des exemples suisses, hein, d'accord, on est en Suisse, eh bien, cet anabaptiste Grébel défend que la scène, le repas du Seigneur, ne peut se célébrer que le soir puisque le Christ l'a institué un soir. Il n'y a pas de verset qui vous dit qu'on peut le faire le matin, donc je ne fais pas le matin. Vous voyez, je ne me sens pas autorisé, si je n'ai pas de verset, je ne me sens pas autorisé à faire quelque chose. Et ça, c'est très répandu, surtout en milieu évangélique. Hein. Voilà, on aura besoin d'un verset pour tout justifier et tout légitimer. Pour les autres, tout ce que la Bible n'interdit pas, elle le permet. Elle le permet. Du moment qu'il n'y a pas d'interdiction, nous sommes libres de le faire, même s'il n'y a pas de commandement explicite. Ça vous parle ? Vous voyez ça ? Alors on va prendre un exemple beaucoup plus concret. Hein. Vous vous promenez dans une ville et vous voyez un magnifique jardin, un magnifique parc. Vous entrez ou vous entrez pas ? Il y en a qui vont dire « Ah non, j'entre pas hein, !» Ici, il n'y a pas écrit « jardin public ». Et puis il y en a d'autres qui entrent parce qu'il n'y a pas écrit « propriété privée, défense d'entrée ». Alors vous entrez ou vous entrez pas ? Ah, c'est pas faux, il y a de la culture là aussi. Bien joué. Vous voyez ? Jardin public ou propriété privée ? C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et ça, ça va avoir beaucoup d'incidence dans notre vie chrétienne et dans notre dialogue. Regardez ce document à la Fédération protestante sur le baptême. C'est bien un des points aussi qui nous crispe hein, en œcuménisme, puisque du côté évangélique, on baptise même ceux qui ont été baptisés petits. D'accord ? Ce qui est appelé un rebaptême par les autres. Et les autres diront « Non, c'est pas un rebaptême, c'est un baptême. » Alors, écoutez, du coup, cet argumentaire. Pour les baptistes, et tous ceux qui sont de théologie baptiste, hein, donc plus large, pour les baptistes, le baptême des croyants étant le seul attesté dans les écrits du Nouveau Testament, il est aussi le seul à devoir être pratiqué et à manifester pleinement la signification théologique du baptême. Les pédobaptistes, ceux qui baptisent les enfants, les nourrissons, tout en reconnaissant que le baptême des enfants n'est pas attesté directement dans le Nouveau Testament, estime qu'il est en accord avec la pensée biblique, l'alliance, etc. Vous voyez, donc il n'y a pas un verset, mais c'est en accord général, on va dire, avec la pensée. Vous voyez, ça a une incidence très concrète. J'ai un verset ou j'ai pas un verset sur le sujet, vous voyez. Et donc, voilà, ici, on a une vraie différence. Hein, et du coup, le document là va conclure. Cette autorité est-elle exclusive au point qu'il ne faut retenir pour légitime et normatif que ce qui est affirmé explicitement ? Où peut-on estimer qu'il n'est pas contraire à l'Écriture d'accepter certaines traditions développées par l'Église au cours de son histoire comme valables et légitimes ? On rejoint la question de la tradition aussi, voyez ? Alors le souci, c'est qu'il nous faudrait des lieux de discussion de nos herméneutiques, où paisiblement, avec bienveillance, mais dans la vérité, on puisse aussi s'écouter et se dire comment tu lis le texte, quelles sont les méthodes que tu emploies, voyez, qu'on puisse... Et c'est très rare, voilà. Faut saluer la belle initiative des rendez-vous de la pensée protestante. Ça fait 3 ans que les professeurs des facultés de théologie, toutes facultés protestantes, là, alors ça pourrait inclure aussi les cathos, mais pour l'instant c'est les protestants, parce que déjà entre nous il y a beaucoup de débats, avec aussi les Suisses et les Belges et les Français, donc tous les francophones, là, on se réunit sur un thème et on discute du coup, entre autres, de nos herméneutiques différentes. On peut se réjouir de ces initiatives, mais voilà, qui sont encore rares. Hein. Alors maintenant, plus brièvement, la Bible, moteur d'unité, d'accord ? Comment la Bible est moteur d'unité ? Vous connaissez peut-être cette très belle déclaration de Vatican II. Les Écritures saintes sont, dans le dialogue œcuménique lui-même, des instruments remarquables entre les mains puissantes de Dieu pour obtenir cette unité que le Sauveur offre à tous les hommes. C'est très beau, hein ? Et donc, en quoi la Bible favorise l'unité ici ? D'abord, pour son contenu, parce que c'est la Bible elle-même qui nous encourage à l'unité. D'accord, c'est là qu'on lit un aiguillon, en fait, à l'unité. C'est bien la volonté du Seigneur, cette recherche d'unité. Mais là, du coup, il faut se rappeler 2 vérités sur ce que la Bible enseigne sur l'unité. C'est que c'est Dieu lui-même qui veut l'unité, c'est pas une mode, c'est pas parce que ça fait bien, c'est pas parce que... Non, c'est Dieu lui-même qui veut l'unité. Mais cette unité, en même temps, reste à construire. C'est-à-dire, elle est à la fois un don déjà reçu, et en même temps, elle reste à construire. C'est un paradoxe, là. Ça, c'est vraiment un paradoxe. C'est contradictoire. Donc, dans la Bible, on nous présente l'unité à la fois comme une promesse pas encore réalisée et en même temps quelque chose qui nous est donné. Et il faut qu'on réentende les deux ensemble, d'accord ? Si j'oublie que l'unité m'est déjà donnée, alors je tombe dans le découragement. Je risque de croire que l'œcuménisme, c'est... Voilà, c'est juste un effet de mode et que voilà, est-ce que vraiment il faut s'y engager ? Ça concerne peut-être quelques spécialistes, mais pas tout le corps de Dieu, vous voyez, si j'oublie ça. Mais en face, si j'oublie que l'unité est une réalité encore à construire, alors ça me déresponsabilise. Vous voyez, je ne m'y investis pas. Or, l'œcuménisme, ça demande aussi de se lever un samedi matin à 9h du matin pour venir, vous voyez, faire la rencontre, l'effort de la rencontre de l'autre si différent de moi. Peut-être que là, on peut rappeler la différence entre unité de l'esprit et unité de la foi. Des fois, on emploie l'un pour l'autre, mais ce n'est pas la même chose. L'unité de l'esprit, c'est ce lien spirituel, unité de l'esprit. Unité, donc, lien spirituel découlant à notre conversion, la grâce que le Père nous fait de nous donner des frères et sœurs. D'accord ? Ça, c'est l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, elle nous est donnée. Vous ne les avez pas choisis, vos frères et sœurs, mais à la conversion, on vous dit, ben voilà, regarde maintenant tous les frères et sœurs que tu as. C'est l'unité de l'esprit. Par contre, l'unité de la foi, elle, elle est à construire et à travailler. C'est une confiance qu'on peut se faire mutuellement, qui permet de collaborer, de marcher ensemble, mais elle n'est pas automatique avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on collabore plus facilement qu'avec d'autres. D'accord ? Et là, on a des exemples dans la Bible elle-même pour nous aider. On a un Paul qui, bien sûr, vit l'unité de l'esprit avec tout le monde. Il donne l'image du corps. Hein, l'Église, c'est le corps. Donc l'unité de l'esprit, elle est avec tout le monde. Mais l'unité de la foi, il y a des collaborateurs dont il s'est séparé. Que le Seigneur te bénisse, mais on va aller chacun notre voie. Hein. Voilà, on n'arrive pas à travailler ensemble. Et du coup, il ne dit pas qu'il n'est pas frère. Ils sont frères, mais on ne va peut-être pas travailler tous les matins ensemble. Voilà. Et donc ça, bah, c'est aussi un petit peu de la réelle politique. Hein. C'est très bien de se dire il y a la différence entre l'unité de la foi et l'unité de l'esprit. Et si on ne fait pas cette différence, bien, on va avoir peur que dès qu'on est en désaccord avec quelqu'un, on a brisé l'unité. Non, on a aussi le droit au désaccord ici, d'accord ? Et sinon, on va aussi spiritualiser nos différences. Non, il faut les écouter, les prendre en compte et en avoir conscience. Deuxième vérité de la Bible, que la Bible nous dit sur l'unité, c'est que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est la diversité. Nous, des fois, on a un peu confondu. Unité, ça veut dire tout le monde va me ressembler. Unité n'est pas uniformité, d'accord ? Vous connaissez peut-être cette blague à propos des jeunes mariés, le jour du mariage. Qu'il ne soit qu'un, reste à savoir maintenant lequel. Bah oui, hein, voilà. Bah non, ici, on confond trop souvent unité et uniformité. Et l'unité dont on nous parle dans la Bible, c'est une diversité réconciliée. Mais ça veut dire que la diversité est quand même là, hein, une diversité réconciliée. Et notre recherche d'unité ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance de nos diversités. Ça, c'est une saveur particulière de chacune de nos églises ici. Et là, évidemment, le consensus différencié a beaucoup apporté dans le mouvement œcuménique. Et dernier point par rapport à ça, c'est l'histoire même de la Bible, comment la Bible est devenue la Bible, qui nous enseigne quelque chose aussi sur le mouvement œcuménique. Et là, je vous renvoie à ce très beau livre d'un collègue œcuméniste, Yves-Marie Blanchard, qui du coup est spécialiste du Nouveau Testament et qui fait un parallèle entre comment la Bible s'est constituée et le mouvement œcuménique. Alors, je passe plus brièvement, mais je vous encourage vraiment à lire du coup ce qu'il partage. Le caractère très concret, la longue durée, il dit ça a pris du temps hein, pour se constituer, donc pas étonnant que l'œcuménisme, ça prenne du temps. Le projet herméneutique, c'est-à-dire il y a une unité, mais qui n'empêche pas la diversité de chaque livre. Ésaïe n'est pas les psaumes, qui n'est pas l'Apocalypse, vous voyez. On respecte tout en étant intégré à un seul corpus. Chacun a quand même aussi sa diversité et surtout la centralité christologique de l'ensemble, c'est-à-dire que tout pointe vers Jésus-Christ. Tout pointe vers Jésus-Christ, et ça c'est une clé dans nos rencontres aussi œcuméniques, si c'est Jésus au centre, ça va beaucoup aider en fait, hein, si vous voulez. En quoi la Bible est facteur d'unité ? On l'a dit par son contenu, mais aussi par les événements qu'elle a inspirés. Les événements qu'elle a inspirés. Combien d'entre nous ont été, peut-être vous avez partagé ça tout à l'heure, encouragés par un partage biblique, une étude biblique avec d'autres chrétiens, une expo Bible, une prédication entendue dans une autre église. Vous voyez, combien de fois on est encouragé par ça. Nous pourrions mentionner ici l'exégèse. Aujourd'hui, dans une bibliothèque de pasteurs ou de prêtres, il y a des ouvrages catholiques ou protestants. Hein. Il y a une grande, beaucoup de passages entre les deux, si vous voulez. Hein. On pourrait aussi du coup parler des sociétés bibliques. Les sociétés bibliques, aujourd'hui, c'est œcuménique. Alors qu'au 19e, c'est que protestant. Hein. Et puis maintenant, bah, c'est œcuménique. Le président de la société biblique en France, c'est un catholique. C'était une première. Vous voyez ? Donc il y a vraiment aussi cette collaboration ensemble avec des traductions interconfessionnelles. On va en reparler tout à l'heure. On pourrait parler, bien sûr, des foyers mixtes. Est-ce que certains sont en foyer mixte ? C'est-à-dire, il y en a un qui est catho et l'autre qui est protestant ? Non ? Ça, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Et du coup, ils sont des laboratoires. Ils sont des laboratoires aussi d'œcuménisme ici, hein, les foyers mixtes. On parlera bien sûr donc des traductions interconfessionnelles tout à l'heure. Dernier exemple de projet biblique avant la pause. Dernier exemple de projet biblique qui a nourri l'œcuménisme, c'est ce très beau projet. J'ai eu le privilège de piloter la Bible manuscrite. Est-ce que certains en ont entendu parler ?
Ouais.
La Bible manuscrite ? Ouais. Ouais, très bien, alors je vais vous la présenter. C'est pendant le confinement, le premier confinement, en 2020, d'accord ? Et on a proposé à 500 copistes de toutes les dénominations de recopier un chapitre de la Bible. On était tous confinés, là, hein, et du coup, ça a été une très belle aventure. Et donc, chacun l'a fait avec son style. On avait des enfants de 7 ans et des mamies de 90 ans. On a eu toute la palette confessionnelle de toute la francophonie. C'était vraiment très beau. Et du coup, il y a un original, là, vous voyez, vous le voyez en haut, là, qui fait 3 volumes. Et puis, il y a un fac-similé, hein, qu'on peut, du coup, aussi se procurer ici, hein. Et donc ça, c'était magnifique. Parmi les copistes, il y avait beaucoup d'anonymes, mais il y avait aussi des VIP qui aiment la Bible et qui voulaient participer. Je pense au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, qui nous a recopié un très beau psaume 121. Je pense à Olivier Giroud, le footballeur. On y fait attention à cette page-là, parce que les gens pourraient l'arracher. Hein. Il n'a pas signé, mais enfin, ah, voilà, on fait attention quand même. Mais du coup, voilà, vous voyez ici le format que ça donne. À gauche, l'original. Et puis à droite, le fac-similé. Vous pouvez la faire venir, hein, pour un événement œcuménique. Elle se balade, hein. C'est une très belle... Et donc, du coup, voilà, je vous passe tous ceux qui ont participé, mais je voudrais vous montrer quelques images. En fait, ce qui est très beau, c'est que donc, chacun l'a fait à sa façon. Voilà, regardez ici le très beau 1 Corinthiens 13. Qu'on ait une belle écriture ou pas, hein, tout le monde a participé. On a pu aussi avoir des présentations de livres. Vous voyez, voilà, chacun dans sa diversité. Il y a pas mal de Suisses aussi, hein, qui ont fait ici. Et puis, voilà, regardez, l'introduction des psaumes, par exemple, hein, pour les différents livres des psaumes, vous voyez. Ce qui est très beau, c'est les témoignages qu'on a reçus des 500 copistes, en même temps que leurs copies. Ils nous ont dit que vraiment, ils avaient ressenti quelque chose de très fort, parce qu'ils se sentaient reliés, non seulement à tous ceux qui, en ce moment, étaient en train de recopier, mais aussi aux scribes, aux copistes du passé, cette Bible qui nous a été transmise, finalement, par de la copie et de la recopie, hein, d'accord. Donc, voilà, vous avez d'autres exemples ici. Vous montrer un peu quelques images, tous les âges, voilà. Le psaume 23, vous voyez, avec un bon berger Sévenol. Voilà, ici avec les pages d'ouverture de livres, hein, vous voyez, beaucoup de créativité, hein, vous voyez, très différent. Voilà, ici un très beau Galate, et puis la lettre aux Romains, ça j'ai beaucoup aimé, ça vient d'un Suisse, c'est très drôle, c'est une lettre, hein. C'est très drôle. Voilà. Et puis ici, alors regardez à gauche, la première de Pierre, devinez la confession de celui qui a fait celle-là. Vous voyez, première de Pierre avec les clés et tout ça, voilà, il était un catholique celui-là, hein, du coup. Hein. La lettre à Philémon, vous voyez aussi, très beau. Et puis alors après, ben voilà, la recopie elle-même, hein, des différents passages, chacun avec son écriture, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça. La Bible manuscrite. Hop. Voilà, avec de la couleur. Et puis des écritures très différentes, des encadrements. Il y en a qui ont carrément colorié toute la page. La page était blanche au départ, hein, d'accord. On avait juste donné des consignes sur la largeur de la page. Et après, les copistes, là, ça, c'est une classe de 5e, donc des adolescents là, de 14-15 ans qui étudiaient le Moyen-Âge avec leur prof d'histoire. Et ils voulaient leur faire toucher du doigt ce que c'est que la recopie. Alors, ils ont fait un concours. Tous les élèves de la classe l'ont fait, le même chapitre. Et ensuite, ils ont sélectionné lequel ils allaient envoyer pour participer. Wow. Et c'est celui-ci qui a gagné, là, voilà, Luc 15, oui, il a... Très beau, hein, à 14 ans, voilà. Il a fait ça bien, hein. Ah. Voilà. Et puis, alors, il y en a qui ont voulu illustrer, vous voyez, ceci est mon corps, ceci est mon pain. Ah. Il y en a qui ont vraiment illustré ici, plus enfantin, voilà, on avait vraiment tous les... Voilà, les cartes, les voyages de Paul, il y en a qui ont refait la carte des voyages de Paul. Bon, ça, c'est mon fils, alors j'ose vous le montrer. Hein. C'est celui-ci, là, comme ça. Voilà. Mais le psaume 1, il y en a qui ont écrit en hébreu aussi. Hein, voilà. On a le grand rabbin qui a fait un psaume. Donc ça, c'était très beau. Et puis, voilà, vous voyez un peu la différence aussi des écritures. Certains ont écrit chaque lettre d'une couleur différente. Regardez Matthieu 18. Chaque lettre est une couleur différente. Voilà, là aussi, hein, pareil pour... Regardez. C'est du travail, hein. Ils ont dit qu'ils avaient recommencé 10 fois, hein, mais oui, c'est vrai. Mais là, c'était œcuménique, c'était toutes les confessions, si vous voulez, ensemble, hein, du coup, voilà, avec des illustrations. Ça, c'est pour la croix. Voilà, je termine la symphonie végétale. Et puis il y a ce prisonnier qui a fait ça avec son aumônier aussi, hein, par exemple, voilà, qui nous a fait le fameux chapitre de Matthieu. Vous voyez son dessin là, c'est lui qui a fait ça. J'étais en prison et vous m'avez visité. Avec son aumônier, du coup, il a fait ça pendant le confinement aussi. Voilà, et ça, c'est un très beau psaume, là, celui-ci. On l'a choisi même en couverture, du coup, parce que, vous voyez, un très très beau psaume illuminé. Donc, voilà pour comment est-ce que cette Bible, du coup, était là aussi facteur d'unité. Et peut-être, pour terminer, vous dire que c'est aussi... La Bible est facteur d'unité parce qu'elle me pousse à ressembler à Christ. Plus je la lis... Plus je suis en fait poussée à ressembler à Christ, à me laisser transformer à son image. Et donc, en lisant les Écritures, ça me transforme. Plus je lis les Écritures, plus je ressemble à Christ, donc plus je me rapproche en fait des autres. Et voilà comment a très bien exprimé un dominicain, Bernard Dupuis, à force de lire la Bible ensemble, à force de l'écouter, à force de s'y soumettre pour l'annoncer au monde et se l'annoncer entre eux, les chrétiens peuvent désapprendre de leurs désaccords. Désapprendre leur désaccord. Le chemin pour désapprendre est long, mais voilà, c'est bien la lecture des Écritures qui nous aide. Et c'est pas un hasard si Vatican II a représenté l'ouverture majeure à l'œcuménisme et que ça a coïncidé avec un réveil biblique et une ouverture et une redécouverte des textes bibliques. C'est pas tout à fait un hasard, si vous voulez, ici. En conclusion, du coup, ici, on a parlé de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, et on va en reparler tout à l'heure. Voilà comment Yves Congar a présenté la TOB au moment de sa sortie en 1967. Une grâce merveilleuse a été faite à notre siècle inquiet et inquiétant. La Bible redevient un chemin d'unité. Et il le dit donc il y a plus de 50 ans, vous voyez, mais je pense que ça, c'est très vrai en fait. La Bible redevient un chemin d'unité. Et ça a été repris en d'autres termes par le pape François lorsqu'il écrit à l'occasion des 25 ans du coup d'une encyclique sur l'unité aussi. Voilà la lettre qu'il écrit au cardinal Corre qui est chargé de l'unité pour l'Église catholique. Je voudrais nous laisser ça comme mot de conclusion, qui est, c'est presque une prière aussi pour nous. Invoquons donc avec confiance l'Esprit, afin qu'il guide nos pas et que chacun ressente avec un nouvel élan l'appel à œuvrer pour la cause œcuménique, qu'il nous inspire de nouveaux gestes prophétiques et renforce la charité fraternelle entre tous les disciples du Christ pour que le monde croie et que se multiplie la louange au Père qui est dans les cieux. On a envie de dire Amen, non ?
Amen.
Amen. Merci, je vous remercie. On va prendre la pause et puis on prendra des questions aussi tout à l'heure si vous voulez.